Europa Voice numéro 65, et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors aujourd'hui, numéro 65, il y a énormément de choses qui se sont passées depuis notre dernier épisode d'Europa Voice, notamment eh bien, les ambitions de la Cour européenne dans ce combat contre les multinationales, notamment américaines, qui a pris un petit coup dans l'aile quand même récemment.
Oui Christophe, alors je ne sais pas si c'est les ambitions de la Cour européenne ou en tout cas les ambitions de la Commission européenne et les ambitions de l'Union européenne qui ont été un peu douchées par les récentes décisions des cours de justice de l'Union européenne. En tout cas, Christophe, ce qui s'est passé cette semaine dans l'actualité de l'Union européenne, c'est que tout simplement la justice européenne a annulé la décision qui sommait Apple, le géant américain à la petite pomme, de rembourser 13 milliards d'euros à l'Irlande. Et donc, Christophe, c'est un véritable revers pour Bruxelles et un point pour Apple dans ce combat contre la Commission européenne.
Alors, on le sait, c'est vraiment quelque chose qui a été au cœur du combat fiscal du combat également. On va extrapoler un peu là-dessus sur le partage des données et sur le comportement de ces grandes multinationales qui dirigent énormément de choses hein, dans la façon dont ils travaillent. Mais vous parlez d'un point négatif. À quel point tout ça peut avoir un impact sur la prochaine politique européenne? Parce que bon, 13 milliards, c'est quand même pas un petit chiffre. Pour un pays comme l'Irlande, c'est pas non plus un petit peu d'argent. Hein. Ça commence à faire pas mal d'argent. Ça veut bien dire qu'il y a les attitudes vraiment différentes, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique.
Oui, Christophe, alors, cette décision européenne, hein, elle est extrêmement symbolique. Et je dirais que d'une certaine façon, c'est aussi la face émergée de l'iceberg. Alors, juste pour revenir sur ce combat Apple versus Union européenne, ce qu'il faut savoir, c'est que la justice, en fait, elle a annulé une décision qui date d'août 2016, où à ce moment-là, le fabricant de l'iPhone, Apple, devait rembourser à l'Irlande 13 milliards d'euros en avantages fiscaux qui ont été jugés indus. Mais quand je vous dis que c'est une face seulement émergée de l'iceberg de la taxation fiscale et numérique, c'est parce que derrière ce combat contre Apple, Christophe, le point de friction véritable entre l'Union européenne et les géants américains, ce qu'on appelle les GAFA, c'est véritablement la taxation du numérique. C'est ce qu'on appelle la taxe GAFA. Et c'est ça véritablement qui hérisse les poils, notamment des États-Unis, parce que si je prends simplement l'exemple français, Christophe, il faut savoir que la France a voté une taxe de 3% pour taxer justement le chiffre d'affaires, des grands acteurs du numérique. Et c'est contre cette taxe, dite taxe GAFA, que Washington, par exemple, dans cette guerre fiscale, dans cette guerre des taxes, a annoncé vouloir implémenter, mettre en place des taxes douanières de 1,3 milliard d'euros sur les produits français. Donc vous voyez véritablement, derrière Apple, c'est un enjeu de taxation des grands acteurs du numérique, et encore au-delà de cet enjeu de taxation des grands acteurs du numérique, c'est un enjeu de taxes douanières à une époque, Christophe, où le sujet est plus que brûlant avec le Brexit et avec les accords commerciaux et le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce.
Ouais, justement, et puis juste un petit point sur la France, c'est vrai que les États-Unis ont mis en place des taxes et les ont tout de suite suspendues, puisque bon, c'est pas forcément le meilleur moment pour les États-Unis de se faire des ennemis avec ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, on va y revenir dans quelques instants. Mais à quel point ça peut être quelque chose qui peut être vraiment avoir une signification sur l'avenir de la relation américano-européenne, parce que on sait qu'il y a une attitude qui est américaine de très très vite taxer les importations, ce qui peut vraiment aller au détriment de l'Union européenne.
Alors ça peut avoir, je dirais Christophe, deux conséquences. D'abord, il faut bien le préciser hein, pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS que la taxation, la fiscalité, c'est un outil, Christophe. Véritablement, la question, c'est comment est-ce que vous utilisez cet outil et jusqu'à où vous jouez avec la jauge pour faire de cet outil un outil soit de coopération, soit de répression. Donc ça, c'est le premier point. Et on voit hein, là, on a l'impression que c'est une taxe répond à une autre taxe. Et donc, l'escalade peut rapidement prendre des proportions où c'est une guerre des taxes, si vous voulez, qui peut se mettre en place entre les États-Unis et l'Union européenne. Le deuxième point, Christophe, et là où ça peut avoir un impact direct sur l'Union européenne, c'est qu'en fait, le but aussi des États-Unis, c'est de dissuader d'autres acteurs de l'Union européenne d'instaurer des taxes GAFA similaires. Alors, ça peut être des acteurs qui ne feront plus partie de l'Union européenne comme le Royaume-Uni, mais ça peut être même des acteurs encore dans l'Union européenne parce que les États-Unis sont aussi en train de véritablement faire un travail de lobby, par exemple, pour dissuader l'Italie d'instaurer cette taxe GAFAM. Donc, vous voyez, on joue véritablement sur ces deux niveaux, à la fois le bloc Union européenne contre le bloc américain, mais aussi les États-Unis qui peuvent foutre un petit peu le bazar au sein même de l'Union européenne entre les différents États membres.
Alors, 1-0 pour les États-Unis à ce point-là. Par contre, égalisation de l'Union européenne, si on parle de football, hein, et à la fois, vous allez me dire, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, mais on va en reparler. Mais donc, un partout avec, eh bien, les lois du partage des données, un autre point de contention entre les GAFA, donc, et surtout les États-Unis, puisqu'on sait qu'à quel point, on l'a dit, ces GAFA sont américaines, hein, il faut pas se le cacher. Donc, égalisation sur ce partage des données entre l'Union européenne et les GAFA.
Oui, Christophe, alors GAFA, vous avez raison de le mentionner, hein, quand on dit GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Donc c'est les géants américains des nouvelles technologies. Alors oui, Christophe, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais effectivement, c'est un partout parce qu'en parallèle de cette décision extrêmement surprenante et aussi un petit peu déstabilisante pour la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, parce qu'il faut le dire, hein, Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence, elle était, en fait, à l'origine de cette décision de taxer Apple, et surtout, elle s'était fait un peu une image de passionnariat et d'icône de la résistance aux GAFA. Donc, ça a sapé un petit peu l'image de cette commissaire. Mais quand on dit un partout et un point dans le camp européen cette fois, c'est justement par rapport à ce qu'on appelle la protection des données et tous les débats qu'on a autour de GDPR en anglais, de RGPD en français. Et là, c'est effectivement l'Union européenne, Christophe, si vous me permettez la métaphore, qui marque un point parce que la Cour de justice de l'Union européenne, elle a annulé extrêmement récemment, hier, jeudi 16 juillet, un accord qui s'appelle le Privacy Shield, le bouclier de protection des données, qui permet en fait aux entreprises du numérique de transférer légalement des données personnelles du citoyen européen aux États-Unis. Alors, dans les faits, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Cour de justice de l'Union européenne, elle a considéré que le niveau de protection des données américains n'était pas assez au niveau de protection des données imposées par l'Union européenne et donc que les entreprises doivent se conformer en fait à la loi européenne en s'engageant à respecter certaines précautions quant à l'usage de leurs données, des précautions qui ne sont pas forcément mise en œuvre par les États-Unis et par les géants des technologies américaines.
Voilà, un partout et on n'est qu'à la mi-temps. On a fait que la première mi-temps. Hein. Pour l'instant, il y a encore potentiellement une deuxième mi-temps, des prolongations et peut-être des pénalties encore à venir.
Ah oui, Christophe, et j'allais dire, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est la durée du match, parce que là, on a parlé d'Apple, on a parlé des données personnelles, mais on a énormément de dossiers qui sont sur la table, que ce soit lié à des abus de position dominante, que ce soit lié à des comparateurs de prix, que ce soit lié à de la publicité en ligne. Donc, effectivement, le match de la taxation numérique et de la technologie ne fait que commencer entre les géants américains et l'Union européenne.
Allez, on va passer au prochain volet de cet épisode d'Europa Voice, j'allais dire le plan de relance européen, et non, justement, les plans de relance européens, parce qu'on l'a vu dans des épisodes précédents, qu'il n'y avait pas forcément une approche globale européenne par rapport à la relance, même s'il y a quand même un chapeautage des idées. On va voir tout ça. On en est où un peu dans tout ça? Parce que depuis que la dernière fois on s'est parlé, il s'est quand même passé pas mal de choses. Les frontières devaient être ouvertes, elles ont été réouvertes. Certains pays devaient rouvrir la circulation de leurs personnes et de leur matériel, ça a été fait. On en est où aujourd'hui de ces plans de relance? L'Europe en est où? C'est l'été, c'est les vacances, mais économiquement, on en est où?
Économiquement, enfin, où est-ce qu'on en est, Christophe, de ce plan de relance? Aujourd'hui, doivent se réunir à Bruxelles les 27 pays de l'Union européenne, justement pour trouver, enfin tenter en tout cas de trouver et de s'accorder sur ce plan de relance, sur ce programme d'aide qui va être véritablement, Christophe, crucial pour l'économie européenne. L'idée, c'est qu'on a parlé hein, de ces 750 milliards d'euros. Et ben maintenant, il faut ce sommet européen pour justement avoir ce compromis sur ce plan de relance. Alors, il y a toujours, Christophe, de multiples obstacles à ce plan de relance. D'abord, on l'a vu, tous les pays ne sont pas accordés. Hein. Il y a toujours cette opposition des pays dits frugaux, avec le Premier ministre néerlandais en tête, Mark Rutte, qui fait figure véritablement de porte-parole de ces États dits frugaux. Alors, pour nos auditeurs d'SBS, d'Europa Voice, on parle des Pays-Bas, de l'Autriche, du Danemark, de la Suède, un peu dans une moindre mesure de la Finlande. Qu'est-ce qui se passe, Christophe, avec ces pays dits frugaux? Ils ne contestent pas du tout le plan de relance, hein. Ils sont d'accord, hein, qu'il faut s'accorder sur un montant et un soutien à l'économie européenne. C'est les modalités véritablement qu'ils remettent en question. De manière très schématique, ils préféraient avoir des prêts que les États membres seraient obligés de rembourser plutôt que des subventions et, d'une certaine façon, une mutualisation des dettes. Voilà véritablement l'opposition principale qu'il faudra lever lors de ce sommet européen et de trouver un accord, un compromis sur ce plan de relance de 750 milliards d'euros.
Tout ça, ça reste quand même lié à la situation sanitaire. Je pense qu'il faut en parler. Il y a vraiment des situations différentes dans certains coins de l'Europe. Il y a des villes, des régions, des zones qui ont été reconfinées. Alors, pas comme nous à Melbourne, mais en tout cas pas sur cette échelle-là. Mais il y a quand même une tendance qui est soit à la prudence, soit eh bien, au regain de vigueur du virus. Donc forcément, ce plan de relance, il arrive à un moment où on se pose encore des questions sur le point de vue sanitaire.
Alors, juste Christophe, sur les chiffres hein, de ce plan de relance, hein, quand on parle des 750 milliards d'euros, d'abord, il faut savoir que sur ces 750 milliards, la majeure partie, elle est dirigée justement à soutenir les États membres dans le cadre de la reprise post-Covid 19 et dans le cadre des politiques dites de résilience, hein, donc c'est directement lié, Christophe, si vous voulez, à la crise sanitaire. Et puis vous avez quand même 5% de ce plan de relance, environ 40 milliards d'euros, qui est dédié à, j'allais dire, tirer les leçons de la crise, renforcer les systèmes de santé, la protection civile, l'aide humanitaire et la recherche. Donc, si vous voulez, même dans ce qu'on peut appeler le breakdown en anglais de ce plan de relance, la majeure partie est allouée à une réponse directe, ou en tout cas est une réponse directe à cette crise du Covid-19. Alors, pour parler de cette crise maintenant plus dans les détails, effectivement, on l'avait étudié, on en avait discuté lors d'un précédent épisode d'Europa Voice, les frontières européennes se sont ouvertes, hein, c'était la date du 1er juillet où l'Europe s'ouvrait à des pays hors espace Schengen, et ben une vingtaine de jours après, Christophe, cette ouverture du 1er juillet est déjà remise en cause et même, je vais même plus loin, Christophe, je crois qu'à l'intérieur même de l'espace Schengen, le retour à ce qu'on pourrait appeler à la normale est déjà remise en cause et paraît un peu loin. On l'a vu, hein, il y a de nouveau des contrôles dans les aéroports des ressortissants de l'espace Schengen au sein de l'espace Schengen. Donc effectivement, vous avez les décideurs politiques européens qui se réunissent à un moment où la situation sanitaire elle est encore extrêmement instable et la question des frontières, de la même manière qu'elle a évolué extrêmement rapidement au mois de juin, elle peut aussi évoluer de manière très rapide pendant ce mois de juillet.
Et on l'a vu hein, même sur la question du port du masque, par exemple, obligatoire dans les endroits fermés. En France, on avait parlé déjà pas de port de masque obligatoire après le 1er août, après on parle du 20 juillet. Enfin, tout ça, ça s'accélère et ça peut aussi poser pas mal de questions sur justement cette relance économique avec slash la situation sanitaire.
Oui, Christophe, hein, tout à fait. Hein, si vous avez cité l'exemple français, je crois qu'en l'espace de 3 jours, on est passé de un masque pas obligatoire à un masque obligatoire le 1er août dans les espaces clos à un masque obligatoire le 20 juillet dans les espaces clos. Donc tout va très vite, j'allais dire. Mais c'est aussi ça la difficulté, Christophe, si vous voulez, de ce sommet européen, c'est que des décisions extrêmement importantes qui vont engager les États européens pour les prochaines années, hein, parce que quand on parle du plan de relance, il faut aussi voir à moyen long terme, au moment où les pays devront rembourser une partie quand même de ces 750 milliards d'euros, on commence à partir de 2026-2028 sur une période de 30 ans. Donc c'est extrêmement compliqué, si vous voulez, Christophe, parce que à ce moment-là, les politiques européens jouent sur deux temporalités. La temporalité du temps extrêmement long quand vous mettez en place un plan de 750 milliards d'euros hein, qui s'étale sur non seulement votre budget pluriannuel du moment, hein, mais sur des périodes plus longues, le temps du remboursement. Et en parallèle de ça, vous avez une temporalité beaucoup plus courte avec des politiques, des fois, qui naviguent un peu à vue par rapport aux problèmes sanitaires. Alors, vous avez pris l'exemple français, mais ça concerne, et pour pas faire de French bashing dans Europa Voice et sur SBS, ça concerne tous les pays, Christophe, hein, de l'Union européenne. Hein. Vous avez des pays, par exemple, comme le Portugal, qui a reconfiné une partie de ses de ces quartiers de Lisbonne. Vous avez la Croatie qui, elle, par exemple, ne veut pas mettre à mal sa saison touristique et pour l'instant, qui ne veut pas soumettre les touristes qui arrivent à des contrôles sanitaires à l'entrée ou à leur sortie du territoire. Vous avez des pays aussi comme l'Espagne, où vous avez certaines mesures justement de restriction de confinement en Catalogne, dans les Baléares. Donc vous voyez, c'est, j'allais dire, c'est pas que la France, c'est tous les pays européens qui doivent jouer avec cette double temporalité du temps long par rapport au plan de relance et du temps très court sur les mesures sanitaires à apporter pour assurer la population.
Et oui, vous avez parlé de Lisbonne, on va refaire un autre point football. Ça pose même la question de la finale de la Champions League. Allez, Europa Voice, ce ne serait pas Europa Voice sans un point Brexit. On sait que j'aime beaucoup le Brexit, c'est quelque chose qui me passionne. Il s'est passé pas mal de choses par rapport à ce Brexit. Ça a peut-être été un petit peu occulté avec les côtés de cette pandémie, mais est-ce que le dossier avance aussi vite qu'on l'aimerait quand même?
La question, Christophe, c'est à 6 mois de l'échéance, à mi-année 2020, où est-ce qu'on en est véritablement des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, hein, parce que le Royaume-Uni est sorti effectivement de l'Union européenne le 31 janvier dernier. On va refaire un peu de pédagogie et d'historique sur le Brexit, mais le Royaume-Uni doit encore quitter le marché unique et l'union douanière à la fin de la période de transition, Christophe, fin de la période de transition qui est le 31 décembre prochain, 31 décembre 2020. Donc on est véritablement à mi-chemin et c'est vrai, hein, on se pose des fois la question où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a totalement achever notre Brexit politique et puis maintenant on doit achever notre Brexit, j'allais dire économique, hein, selon les mots du négociateur en chef Michel Barnier. Est-ce que on exclut ou pas un no deal à 6 mois de l'échéance? Est-ce que où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Est-ce que par rapport à la période de transition, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, la pandémie que personne ne pouvait anticiper, est-ce que finalement on peut étendre un peu cette période de transition? Alors on sait, Christophe, et c'est un sujet qui vous passionne, qui nous passionne, que l'Union européenne, elle, est plutôt ouverte à revoir cette période de transition et certainement à la proroger, alors que le Royaume-Uni, lui, veut absolument terminer et clore le dossier avant la fin de l'année. Donc on est un petit peu, j'allais dire, dans le brouillard, dans le fog, par rapport à ce Brexit à mi-chemin 2020.
Ou alors c'est géré à la britannique, on attend, et puis à la fin on prendra une décision et ce sera la bonne. Peut-être ça peut être ça aussi.
Oui, peut-être ça peut être ça, Christophe. Un des game changers, hein, pour rebondir un peu sur votre question, c'était quand Boris Johnson avait décidé lui-même, hein, de s'impliquer, de rencontrer la présidente de la commission et certaines personnalités de l'Union européenne mi-juin. Mais véritablement, on était plus sur de la forme que sur du fond. Il ne s'est rien passé. Alors, c'est pour ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que pour faire avancer le Brexit économique, qui normalement ne devrait être que des formalités, on a quand même encore besoin du poids du politique et de Boris Johnson. Mais on l'a vu, hein, pour l'instant, il n'y a pas eu d'avancée, sur ce terrain-là. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression, Christophe, et dites-moi si vous partagez mon avis, c'est que Boris Johnson ne semble pas avoir peur, en tout cas ne semble pas effrayé à l'idée d'un no deal. Et c'est ça peut-être qui est le plus inquiétant, Christophe, c'est que on a peut-être aussi deux objectifs qui sont différents, hein, d'une part l'Union européenne qui aimerait finaliser cet accord, et de l'autre côté le Royaume-Uni qui a tellement d'appels du pied d'autres acteurs internationaux, pour ne citer que les États-Unis, que peut-être que Boris Johnson, lui, est tout simplement en train de laisser mourir le Brexit de sa belle mort et s'acheminer doucement vers un no deal. Donc vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on en est là. Et c'est ça qu'il va falloir, c'est accorder les violons, c'est savoir qu'est-ce que finalement les deux entités veulent. Pourquoi pas un no deal, hein, ça peut être une des solutions, mais il faut que ce soit d'un commun accord. Voilà, il faut qu'il y ait un non-accord d'un commun accord. Alors, est-ce qu'on va arriver à avoir ce non-accord d'un commun accord? J'anticipe un peu vos mots.
Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.